www.radioscoop.fr.
Radio. Pardon, demande l'ordre de m'envoyer de la chèque.
Il est là.
C'est bon.
Bon appétit, Sœur Ibaï, c'est délicieux.
Ce poisson rebelle.
C'est un poisson rebelle?
Oui, il ne se laisse pas maîtriser.
Vous voulez que je vous aide?
Ça n'a rien à voir avec les rébellions des hommes.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout un week-end en sol majeur à Abidjan, la cause est belle, elle est culturelle. Et si vous étiez branché sur RFI ces dernières semaines, vous savez que Côte d'Ivoire a rimé avec un peu araignée du soir. C'est-à-dire élections locales tendues, tirs de gaz lacrymogène, partisans mécontents sur fond de rivalité politique. Alors même si le président Ouattara en visite en France pour les commémorations du 11 novembre a déclaré « Non, il n'y a pas de crispation politique dans mon pays », on sent bien comme de l'électricité dans l'air. Et c'est dans ce contexte que la culture pointe son nez avec un colloque international intitulé « Sidiki Bakaba, un engagement au service des arts et du spectacle africain » qui s'est déroulé à l'université Félix Houphouët-Boigny du 16 au 18 novembre. Sidiki Bakaba, artiste majeur franco-ivoirien, nommé par Laurent Gbagbo, directeur du Palais de la Culture d'Abidjan en 1999 et en exil en France depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis la crise post-électorale de 2011. L'artiste, qui est une icône sur le continent, sera notre invité demain. Mais aujourd'hui, pour pousser les portes de ce colloque, nous recevons en sol majeur, dans un petit maquis d'Abidjan, Monsieur Séri Bailly, écrivain, homme politique ivoirien et responsable du comité scientifique de ce colloque. Bonjour Monsieur Séri Bailly.
Bonjour.
Très honoré de vous rencontrer en sol majeur ici, dans un cadre convivial. On est à Port-Royal, c'est un petit maquis de cocody, c'est très agréable, j'ai les pieds nus dans le sable. Et vous?
Effectivement, nous sommes à Blokos, qui est un sous-quartier de Cocody. Et donc nous sommes au bord de la lagune et il est normal que nous ayons les pieds dans le sable.
Alors en attendant notre petite commande de poisson braisé hein, pour vous et de poulet braisé pour notre Laura Pinto, on va commencer notre palabre autour de ce colloque international. C'est un immense travail organisé par le professeur, chercheur André Banouman Kamaté. J'ai pas bien prononcé son nom, je le sais. Il a réuni des spécialistes du théâtre et du cinéma. Ils viennent tous du continent, des États-Unis, du Canada, de France. C'est un énorme travail pour faire des communications sur le travail d'un artiste africain. C'est quand même une démarche suffisamment rare pour qu'on la souligne. À votre avis, pour quelles raisons Sidiki Bakaba fait l'objet d'un tel colloque?
Bon, je pense qu'il est un immense acteur. Il est une grande personnalité du monde du théâtre, en tant que lui-même, mais qui a donné sa chance à d'autres jeunes acteurs, hein, à d'autres metteurs en scène, et qui a fait connaître le théâtre ivoirien. Et donc des personnalités anciennes comme Dadier, le théâtre de Dadier. Et donc je pense qu'il a apporté une contribution importante au théâtre africain et au cinéma africain. Et je me réjouis qu'il puisse revenir en Côte d'Ivoire après les événements tragiques que vous avez évoqués et que, au fond, nous puissions lui dire bon retour. Et donc, le colloque est un bon prétexte pour que nous puissions renouveler notre reconnaissance à Sidiki Bakaba.
Alors, Bakaba, pour les jeunes générations de par le monde qui ne le connaîtraient pas, c'est 45 ans de carrière entre théâtre et cinéma, entre le continent et l'Hexagone. Et je vous ai demandé à vous, Séri Bailly, quel était le film que vous pouviez retenir dans sa très longue filmographie. Vous m'avez parlé de Visage de femme.
Oui, Visage
de Désiré Carré.
Oui, Visage de femme. C'est un film qui est sorti, je crois, dans les années 80. Et ce qui m'avait frappé, c'était le concernant, en tout cas, il apparaissait comme le jeune coq du village. Et il a rencontré un personnage, c'était joué par Feu Véronique Maïlé. Et donc voilà quelqu'un qui veut faire des conquêtes. Et il y a une sorte de retournement de situation où finalement c'est lui-même qui est l'objet de la conquête. Et c'est ce qui m'avait frappé entre autres femmes de forte personnalité, puisqu'il y avait la vendeuse de poissons, il y avait la femme qui utilisait les arts martiaux pour se défendre aussi. Et donc, que ce soit la force physique de combat, que ce soit le commerce et donc les moyens de l'autonomie financière, ces différentes femmes ont essayé donc de faire face.
Alors, ce qui serait bien, c'est que dans ce coin de maquis de Cocody, on écoute justement un petit extrait de Visage de femme. Sidiki Bakaba, il joue le rôle de Kwasi. C'est un étudiant africain citadin qui revient pour les vacances dans son village à Caen, où il se fait traiter, je crois, par son propre frère de blofoué, c'est-à-dire de blanc, parce qu'il passe son temps à fumer et à draguer. Extrait.
Depuis 2 semaines, je ne fais que te regarder à la dérobée. Presser ta main au vol. Tout le monde nous surveille. Tu es étrange.
Mais où est ?
Oh. Ndenmano. Fia fiale. Wa flani.
Ok. Ça sera en quelle influence sur nous ? Nzoum dere sunzoum. Son fils Mendengaba ou yafine. Naora fisso.
Avant qu'on revienne sur cet extrait de Visage de femme, pour un sol majeur ici à Abidjan, je voudrais demander là un petit tour de table. Aloko, frites, Atchéke. Banane plantain ou Atchéke ? Voilà, on va se sustenter, on en a besoin un petit peu. Hein. Oui, alors on parlait de Visage de femme, Seri Bailly. On vient d'en entendre un court extrait avec un très jeune Sidiki Bakaba. Il doit avoir à peine 25 ans. Et on vient de l'entendre et en français et en Ani, je crois. Et ce film, vous le disiez bien, c'est un film de 1972. Enfin, il y a un doute sur la date. C'est presque le premier film, on pourrait dire, féministe ou érotique de l'histoire du cinéma africain, puisqu'il y a notamment une scène où Sidiki Bakaba joue nu dans la rivière.
Oui, c'est vrai. Et cette scène est intéressante parce que, au fond, elle est d'une beauté si captivante. Je veux dire, l'espace, l'environnement qui permet de ne pas se focaliser sur ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Il y a donc cette dimension érotique.
Les deux personnes-là, c'est lui et la femme qui font l'amour dans la rivière.
Il y a cette dimension érotique et en même temps, ce n'était pas seulement faire l'amour avec une femme, mais avec l'ensemble de la nature même. Et donc, je pense que cette dimension érotique fait partie aussi, non pas de la provocation, mais disons du sens du défi par rapport aux normes imposé, et voici que un cinéaste vient être transgressif avec un acteur qui lui-même, on a vu ça tout au long de sa carrière aussi, qui a toujours été un personnage de transgression.
Justement, il a le sens du défi, Bakaba, lui aussi, mais on sait que il revient de 7 années d'absence avec la Côte d'Ivoire. On sait que Bakaba a été proche de Laurent Gbagbo pour sa nomination notamment au Palais de la Culture d'Abidjan. Est-ce que ce colloque-là, qui est organisé ici à l'Université Félix Houphouët-Boigny, vaut pour Amnesty pour vous ? Est-ce qu'il y a du symbole derrière ce colloque ?
Oui, je pense que nous sommes dans une période où nous essayons de réaliser la réconciliation. Après ces grands événements qu'on appelait crise post-électorale, même si c'est une crise qui a duré presque 10 ans, donc, je pense que dans cette réconciliation, tout ce qui peut être fait pour rapprocher les filles et les fils, n'est-ce pas, de la nation, serait positif.
Pourquoi Bakaba pourrait rapprocher les fils et les filles de la nation ?
Mais d'abord, que lui-même se rapproche de la nation, et c'est une figure éminente dans le domaine de la culture. Et si Bakaba apparaît comme un des acteurs de cette réconciliation, s'il est présent lui-même en Côte d'Ivoire, cela signifie que l'activité de réconciliation avance, fait quelque part. Naturellement, on ne peut pas dire qu'on a réussi en totalité, mais l'essentiel est que la réconciliation comme processus puisse avancer, et s'il peut y contribuer, je crois qu'il sera heureux lui-même d'y participer.
On fera plus ample connaissance, bien sûr, avec ce grand artiste demain, pour En sol majeur sur RFI. Mais je me disais qu'un homme qui est comme vous, Seri Bailly, à cheval entre la culture et la politique, ça intrigue toujours. Donc, qui êtes-vous, Seri Bailly?
c'est comme côté cour, côté jardin.
On n'est pas tout seul hein, dans ce maquis, hein, à Port-Royal, du côté de Cocody, oui. Hein, Cyril Bailly. On attend toujours d'ailleurs notre poulet et notre poisson braisé. Mm-hmm. Oui, pour dire, puisqu'on utilise notre abécédaire en sol majeur, que vous avez ces deux côtés. Côté cour, vous êtes membre du FPI depuis 1993. Mm-hmm. Fondé en 82, je le rappelle, dans la clandestinité mm-hmm. par un certain Laurent Gbagbo. En mm-hmm. 2000, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis mm-hmm. ministre de la communication jusqu'en mm-hmm. 2003, fauteuil mm-hmm. que vous allez céder à Guillaume Soro. Mm-hmm. Ça, c'est côté cours. Côté jardin, vous écrivez beaucoup, des mm-hmm. essais politiques, mm-hmm. Mais aussi des contes, de la poésie et puis des chroniques.
Mm-hmm.
Comment vous avez fait, puisque vous êtes faussement à la retraite, hein, vous êtes très occupé comme retraité, je le sais, mm-hmm. mais comment vous avez fait pour concilier indépendance d'esprit et devoir de réserve, puisque c'est un peu inhérent au costume politique, ça.
Mm-hmm. Oui. Effectivement, ça peut paraître difficile, mais si on aborde la politique comme une activité dans laquelle on veut promouvoir un idéal, on veut défendre des causes, on doit s'efforcer de préserver sa liberté. Je pense que là, c'est un peu comme si on était en mission.
Mmh. Et alors,
réalité,
quelle était votre mission et quel était votre idéal ?
C'est parce qu'on croit en une valeur comme la liberté, qu'on va estimer que le parti unique n'est pas une bonne chose pour nous. Et donc, toutes les luttes clandestines ou ouvertes qui vont s'engager pour obtenir le multipartisme et le faire fonctionner, c'est important pour l'exercice de la liberté.
Oui, vous avez été aux côtés de Laurent Gbagbo lorsqu'il était un tout jeune opposant politique à Oufouet-Boigny.
Oui. Je l'ai connu quand moi j'étais étudiant. Nous nous sommes retrouvés dans un camp militaire à cause de nos idées.
Et donc, compagnons de cellule, tous les deux.
Oui. Bon, on était dans un camp militaire, on n'était pas vraiment dans des cellules de prison, mais c'était qu'il fallait faire l'armée de manière forcée. C'était une sanction, puisqu'on ne voulait pas admettre qu'on avait des prisonniers politiques. Il fallait donc mettre les gens dans l'armée, et dans l'armée, on espérait les redresser, en tout cas, les faire souffrir, et les amener à regretter leur engagement. Mais ça a été une période très enthousiasmante pour nous parce que ça a permis de nous rencontrer. Mm-hmm. Si on ne m'avait pas envoyé à l'armée, je n'aurais pas connu Laurent Gbagbo, je n'aurais pas connu mon ami Sangaré qui vient de décéder et bien d'autres camarades.
Donc un idéal de liberté, multipartisme sur le plan politique et sur le plan de la pensée. C'était quoi votre idéal, votre mission, Cyril Bailly ?
Oui, on peut la résumer aussi avec un autre mot, c'est la solidarité. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
La solidarité est en souffrance sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire, selon vous.
Oui, je pense qu'il y a problème. Dès lors que nous sommes de plus en plus nombreux à penser que la proportion de la population qui souffre, qui n'a pas les moyens de vivre dignement, et que cette proportion augmente, il y a donc une nécessité de nous réconcilier avec ces valeurs de solidarité, mmh. en tout cas de partage. Donc, il ne suffit pas de dire qu'il y a croissance à un chiffre ou à deux chiffres, mais de voir dans quelle mesure cette croissance ou le fruit de cette croissance est partagé.
Il y a un petit vent qui se lève là sur... On n'est pas loin de la lagune hein, d'Abidjan, donc on n'est pas à l'abri non plus d'une averse, mais enfin... Ça, le bruit de la pluie sur la tôle, ouais. c'est un des charmes d'Abidjan, hein, en ce mois de novembre. Alors, Cyril Bailly, ah, y a un vendeur à la sauvette qui vous propose des coques d'iPhone. Vous n'en avez pas besoin, Cyril Bailly, non. J'ai feuilleté un petit peu le journal indépendant et non partisan pôleafrique.info, mm-hmm. où vous signez de temps à autre ce que vous appelez des chroniques d'un autre temps,
oui.
et où vous donnez votre point de vue sur cette Afrique culturelle et politique, où on sent d'ailleurs une impatience chez vous dans le fait de voir les mentalités changer sur le continent. Mm-hmm. Sur quoi, par exemple ?
L'une des premières choses à faire, c'est que nous ayons confiance en nous-mêmes. N'est-ce pas ? Que nous ayons...
Il y a une haine de soi sur le continent, vous diriez ?
Bon, une sous-estimation de soi.
C'est-à-dire une valorisation de qui par rapport à soi ? On valorise encore le blanc ? Je vous provoque volontairement.
Oui, de l'Occident.
Toujours.
Alors, quand on dit « Ah, le blanc est très fort, le blanc est très fort », on se minimise soi-même.
C'est une phrase qu'on entend, qu'on dit encore aujourd'hui.
Ah oui, qu'on entend souvent. Et donc, l'estime de soi, c'est un minimum. Évidemment, nous avons nos défauts, comme tous les peuples. Mais il faut croire en soi, croire en son génie. Donc, nous ne devons pas nous contenter d'être créatifs seulement dans le domaine de la musique, du théâtre, mais être inventifs aussi dans le domaine des technologies et dans l'invention d'idées politiques.
Mmh. Un humoriste camerounais français que je ne nommerai pas dit souvent que les Africains dansent et dansent peut-être trop. Alors, je ne sais pas si on va y arriver dans ce petit maquis à Port-Royal qui est de plus en plus bruyant, c'est normal, hein, c'est l'heure du repas. Mmh. D'ailleurs, on a toujours pas mangé, on attend. Je ne sais pas si on va arriver à se faire une minute poétique avec vous. Mmh. C'est vrai que vous aviez envie de partager avec nous un poème que j'ai lu, un poème de vous qui s'appelle « À moi les tisons survivants ».
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez entre la bière et...
Oui, je peux.
Et les ordinateurs de RFI, on peut essayer de lire ce poème ?
Oui, je peux lire un extrait. Je ne suis pas en quête des reliques des temps trépassés, ni des reliefs décharnés des poubelles miraculeuses, ni des cendres tièdes et volatiles des feux morts-nés. À moi, le tison survivant du déluge, de sa trompette qui déchire le silence de l'oppression, Satchmo annonce l'immortalité des souvenirs chers. Il affronte les Jéricho du monde. Ella était là. Elle chantait avec lui. Le passé, ils peuvent le découdre et le recoudre à leur guise. Leur échappent toujours les aubes fragiles et les matins indécis. Le blues chante les mémoires des défaites ordinaires. En lui sourd pourtant la survie des vaincus. Tous les jours se ressemblent, tous les jours se rassemblent pour se donner la main et attendre demain.
Merci pour cet extrait de poème « À moi les tisons survivants », Siri Bailly, toujours sur RFI, en plein cœur d'Abidjan. Alors j'entends bien sonner les trompettes de Jéricho dans votre poème. C'est quoi, selon vous, le principal mur de Jéricho pour la Côte d'Ivoire ?
Ce sont les survivances, par exemple, du parti unique.
Toujours, hein, ça c'est votre marotte.
Nous sommes dans le multipartisme, nous essayons de construire, d'enraciner la démocratie. Malheureusement, les vieilles habitudes tardent à partir. Et donc, c'est l'un des problèmes, parce qu'à partir de là, on ne conçoit pas la possibilité d'alternance. Toute alternance est vécue comme humiliation.
Ah oui ?
Ah oui, ceux qui souhaitent l'alternance sont perçus comme arrogants, alors que la démocratie suppose l'égalité des citoyens. Personne n'est né pour diriger, personne n'est né pour être dirigé. Ouais.
Alors dans votre ensemble majeur ici à Abidjan, toujours les pieds nus dans le sable, vont sonner les trompettes et les cuivres d'une salsa. Ouais. Vous aimez ça, surtout quand c'est façon Fania All Stars. Est-ce que l'intellectuel que vous êtes est aussi un danseur de salsa, Siri Bailly ?
Oui, 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 j'ai dansé la salsa et je peux toujours me défendre.
Bon, bah ça va danser salsa, donc ici à Port-Royal et à Cocody pour En Sol Majeur sur RFI.
Quítate. soy el que soy.
Quítate no pa ponerme yo. Quítate no. Quítate no pa ponerme yo. Quítate no.
Sol majeur cuivré pour cause de Fania All Stars ici à Abidjan et à Cocody. Je vois des poissons braisés qui nous passent sous le nez, mais rien pour nous, en tout cas pas pour l'instant. Et tout ça se passe dans le cadre d'un colloque international autour de Sidiki Bakaba avec Seri Bailly, intellectuel et homme de pouvoir, au tableau. Oui, vous n'êtes plus un homme de pouvoir, vous êtes à la retraite.
J'en ai si peu.
Un tableau noir, en tout cas, devant lequel certains auditeurs risquent de perdre leur latin.
Dido, Dotu, Tucho, Jona, Lanane, Nefla, Flamba, Bakre, Grego, Bogwe, Bidri.
C'est comme Cosmogony.
Seri Bailly, ce qu'on vient d'entendre, c'est quel alphabet?
C'est l'alphabet qui a été inventé par Bruly Boabré pour écrire sa langue, qui est la langue bété. Bruly Boabré est originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a vécu pendant longtemps au Sénégal où il est resté après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a travaillé à l'IFAN qui s'occupait de faire des recherches sur la culture africaine. Et quand il est entré en Côte d'Ivoire, il a continué à faire ses recherches. C'est donc à Dakar qu'il a eu cette illumination qui l'a conduit à inventer une écriture à partir de sa propre langue.
Voilà. Et à quoi ressemble cet alphabet bété alors?
Par exemple, il utilise des figurines pour dire, par exemple, maison en bété, puisque j'ai la chance et le privilège d'être la même, parler la même langue que lui, libe. Alors, il va décomposer le mot libe, maison, en deux mots, li, qui est la lance, be, qui est la cognée de la hache. Donc, à partir de ces deux figurines, celui qui lit doit pouvoir donc lire le mot libe. Et donc, à partir de figurines, à partir de petites images, de dessins, il crée une écriture qui lui permet de transcrire donc sa langue maternelle.
Vous n'êtes pas anthropologue, Seri Bailly, mais je suis sûr que vous allez pouvoir nous guider. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, professeur?
C'est un genre musical qui s'appelle le touhou. Le touhou, c'est de la musique qui utilise des paroles qui permettent d'enseigner des valeurs à ceux qui écoutent. Et donc le mot touhou vient de la langue Niamboa, qui est cousine de la langue bété, et tonouhou signifie enseigne-lui la parole, enseigne-lui la sagesse. Et donc, ils sont un peu comparables aux griots du Mandé parce qu'ils retracent l'histoire, ils donnent des conseils aux gens, ils pleurent les morts, ils célèbrent les vivants qui ont eu du mérite Donc c'est un des genres majeurs de la culture bété.
Donc vous êtes un connaisseur, c'est évident, de la cosmogonie bété, de ses proverbes, de ses légendes, de ses mythes aussi. Est-ce que vous nous raconteriez très vite comme ça le mythe de Dogboradji?
C'est un mythe important. Nous avons deux personnages qui terrorisent l'humanité. Dogboradji naît après la destruction en quelque sorte de l'humanité par deux méchants personnages. Il naît dans une grotte et sa mère va lui enseigner toutes les connaissances qui vont lui permettre non seulement de vaincre ceux qui ont fait périr l'humanité, mais en quelque sorte de recréer l'humanité. Elle va lui enseigner l'art de la guerre, l'agriculture, etc. Mais comme Dogboradji est devenu puissant après avoir éliminé les méchants, Dogboradji, il y avait des chances qu'il puisse remplacer son propre pouvoir, n'est-ce pas, utiliser son propre pouvoir au détriment de la société. Et donc le mythe fait en sorte que Dogboradji ne respecte pas l'interdit qui lui a donné le pouvoir de vaincre. Et en ne respectant pas cet interdit, il disparaît lui-même. La leçon que j'en tire, c'est que il y a une force qui permet de se libérer. Et cette force, quand elle a libéré, il faut qu'elle disparaisse.
Est-ce que ce beau mythe, Bété, était bien connu de Laurent Gbagbo?
Oui. Il connaît bien l'histoire de Dogboradji.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une sorte de fraternité à la fois idéologique et ethnique entre vous?
Bon, c'est un frère, c'est un camarade, c'est un ami. Et c'est notre grand leader.
Ah, voilà. Nous y voilà. Alors, puisqu'on y est justement, est-ce que vous, FPI, vous souhaitez aujourd'hui la libération de Laurent Gbagbo et son retour au pouvoir?
La première chose, c'est sa libération. Parce que rien ne vaut la liberté pour un être humain. Revenir au pouvoir, ça, c'est l'histoire qui va en décider. Mais recouvrer sa liberté, contribuer à la réconciliation du peuple ivoirien, ce sont ces deux choses qui me paraissent primordiales. Et donc, nous estimons qu'il est injuste que dans une guerre, dans une crise qui a fait s'affronter deux camps, qu'un seul camp paye. Je ne trouve pas ça juste. Toute la nation a été traumatisée et toute la nation aspire donc à recouvrer la paix, en tout cas l'apaisement intérieur et l'apaisement dans la société. Et j'ai été membre de la commission Dialogue, Réconciliation et Vérité, CDVR. Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et j'ai été membre de la commission nationale, la CONARIV. Et donc, j'ai participé à ces activités-là. Et je crois que chacun de nous doit dépasser ce qu'il a vécu comme souffrance.
Beaucoup de pro-Gbagbo, en tout cas, ont vécu l'exil. On le sait bien, sur RFI. Vous qui êtes Seri Bailly, entre la cosmogonie bété dont vous nous parliez rapidement et aussi et toutes les cultures africaines, on le voit bien, et la francophonie, vous avez été aussi au lait de la francophonie depuis Montaigne, me disiez-vous. Est-ce que vous avez déjà rêvé de vous installer en France?
Non. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2001. En 2001, il m'est arrivé de passer en transit. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle aussi devoir de cohérence. Voilà, nous ne pouvons pas critiquer la façon dont la France s'est impliquée dans la crise ivoirienne et puis tous les deux jours aller sur les plages de France. Je pense qu'un moment viendra où intérieurement je vais me réconcilier avec la France, mais en attendant, je lis tous les auteurs français qui peuvent m'instruire et m'enrichir en tant qu'être humain.
Ah, voilà notre poisson braisé et notre poulet braisé. Merci, demoiselle. Ouh là là, ça fait envie, hein. Tout en mangeant, on va commencer à manger, mais juste revenir sur le fait qu'effectivement, vous avez opéré une espèce de fraternité de pensée, je dirais, peut-être avec les auteurs anglophones. Vous parliez d'un auteur ghanéen tout à l'heure, Seri Bailly. Est-ce que les auteurs anglophones ont pu vous aider à vous décoloniser beaucoup mieux que les auteurs francophones?
Ils m'ont permis de prendre la distance et la hauteur nécessaire pour ne pas réagir instinctivement comme colonisé de la France. Ça, c'est sûr. cela m'a permis d'avoir des références autres que françaises et donc de pouvoir juger des questions ivoiriennes avec un peu plus de recul et avec plus de liberté dans mes références. Donc autant je m'intéresse à la Révolution française, aux philosophes français, autant je m'intéresse à Nkrumah et à toute l'histoire qui a conduit la Gold Coast jusqu'à l'indépendance du Ghana. Et donc, en étant d'au moins deux cultures, puisque nous avons déjà parlé de ma culture bété, en étant donc de trois cultures, je me donne la latitude de juger, d'apprécier avec la distance requise.
Je rappelle simplement, en remplissant les assiettes, là, que vous êtes né ici à Abidjan en 1948 et en pleine AOF.
En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
J'ai comme je me souviens.
Alors ce 7 août 1960 a laissé quelle trace dans votre mémoire, Seri Bailly ?
Bien, c'était une grande journée. Et nos parents, qui étaient très enthousiastes à l'idée que nous allions accéder à l'indépendance et que nous devions défiler, nous qui étions les enfants, nous ont réveillé quasiment 4-5 heures du matin pour un défilé qui allait commencer à 10 heures. Et je me souviens que certains parmi nous se sont évanouis de fatigue et de faim. Alors quand j'y réfléchis aujourd'hui, je dis au fond, pour certains, l'indépendance avait commencé d'un mauvais pied.
Oui, oui. Là, c'est les coulisses de la préparation de l'indépendance, voilà, en fait, voilà, que vous racontez.
Voilà. Mais sinon, c'est un grand événement et nos parents étaient tous persuadés qu'un grand jour se levait, que les choses allaient changer. Surtout que, au fond, à côté, Sékou Touré avait pris son indépendance et qu'il n'était plus seul à être indépendant, que nous allions pouvoir nous assumer nous aussi. Et je garde toujours à l'esprit cette idée que j'ai défilé le 7 août 1960 et que je continue de marcher pour l'indépendance.
C'est une belle image, terrible image en même temps.
L'indépendance, on ne l'acquiert pas en un seul jour. Il faut marcher tous les jours pour l'indépendance. C'est comme la liberté, c'est comme le vélo. Si vous arrêtez de pédaler, eh bien, le vélo, vous allez vous recevoir dans les fossés. Il faut continuer de pédaler. Il en va ainsi de la liberté et de l'indépendance.
Mais non, rien de rien, vous ne regrettez rien.
Non, pas du tout, pas du tout. Je me souviens bien de cette chanson. Parce qu'à cette époque, je pratiquais le football. Et quand nous allions au stade pour jouer le dimanche, en traversant le quartier, l'une des chansons qui était jouée vraiment à tue-tête dans le quartier, c'était la chanson d'Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien ». Donc je me souviens bien de cette chanson qui était à la mode dans notre enfance.
Vous avez grandi au milieu des Blancs ou très très loin des Blancs ?
Assez loin des Blancs. En revanche, mon père, qui était ouvrier de formation et qui est devenu syndicaliste, a beaucoup fréquenté, on va dire, des Européens et a beaucoup voyagé dans certains pays d'Europe de l'Est. Il a quasiment fait du syndicalisme professionnel depuis environ 46 jusqu'à sa mort en 83. Donc lui avait des camarades et des amis français. Et moi, j'ai connu des camarades français, mais c'était au lycée.
Donc le fils d'un syndicaliste est forcément à gauche dès les couches culottes, si j'ose dire.
Bon, je suis le seul de ma famille qui est à avoir hérité de cette tradition syndicale. Bon, et je suis fier d'avoir suivi les traces de mon père. Je lui ai d'ailleurs dédié mon autobiographie qui est intitulée « Sur les traces de mon père ».
Est-ce que vous partageriez avec moi une bière ivoire tout en continuant et en finissant cette conversation en sol majeur ici ?
Oui, c'est agréable à partager.
برأيك هل وجودنا على الأرض مجرد صدفة؟
Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard?
Seri Bailly.
Je ne dirais pas cela peut-être, parce que il a bien fallu peut-être quelque chose pour entraîner l'existence d'autres choses. Et à partir de ce moment, admettons qu'il y a quelque chose qui était avant et qui peut être invoqué et qui peut expliquer ce qui se passe et qui peut départager. De telle sorte que nous ne serons pas livrés à nous-mêmes et que la religion puisse permettre aux uns aux autres de modérer leur appétit, modérer leur agressivité, afin de bien vivre avec les autres.
Alors toutes ces circonvolutions pour dire quoi, Seri Bailly? Est-ce que vous êtes toujours un chrétien convaincu?
Non, je ne suis plus un chrétien. Je m'intéresse à la religion comme phénomène social, phénomène culturel. Mais dans mon propre parcours, j'ai été catholique et au moment où cette rupture s'effectuait avec, disons, le christianisme, j'ai même failli devenir musulman en imitant les Black Muslims, les Américains musulmans noirs. Mais c'est après que je me suis dit qu'au fond, toutes les religions s'équivalaient et que ce qui était important, que j'ai ma religion propre au sens de valeurs dans lesquelles je crois et que je m'efforce à appliquer les valeurs dans lesquelles je crois. Parce qu'autour de moi, je voyais beaucoup de gens religieux, mais qui n'appliquaient pas les préceptes de leur religion.
Puisqu'il pleut à nouveau, grâce à Dieu, dans ce maquis de Cocody, on va rester une seconde sur cette question de la religion, car ce qui nous réunit, je le rappelle, en sol majeur, c'est ce colloque international donc autour de Sidiki Bakaba. Petit zoom avec vous, Seri Bailly, sur une pièce écrite en 58 par le journaliste français Louis Sapin, qui traitait de la prolifération des sectes dans la France des années 50 et qui s'est adaptée magnifiquement à la réalité ivoirienne et que Bakaba donc a mis en scène en 2002 au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est Papa Bon Dieu, c'est le titre de la pièce, l'histoire d'un ivrogne appelé Papa Bon Dieu et qui, un peu au hasard des circonstances, se voit considéré par le peuple mécréant comme l'incarnation du Seigneur. La scène s'ouvre sur un cimetière dans lequel des personnages s'apprêtent à enterrer Papa Bon Dieu, que dans un premier temps, ils croient mort. Extrait.
Écoute, Léa. Va-t'en. Tu es bien gentil, mais il n'y a pas de client pour toi ici. On s'est sauvés tous les deux, Papa Bon Dieu et moi, pour boire un coup et se dire adieu. Anna, le pasteur et Thomas, ils doivent être dans tous leurs états maintenant. Ils le cherchent partout, et c'est sûr. Du pape. Je leur ai voulu leur mort. Hier encore, c'est à peine s'ils le regardaient. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils sont comme des mouches.
Et toi, tu n'es pas comme une mouche aussi? Tu veux ton mort pour toi seul.
Et c'est mon ami.
C'est le mien aussi. Écoute, Samuel, je peux payer pour son enterrement.
T'avais ton argent. Sûr que Papa Bondi n'aurait pas aimé ça, d'être enterré avec cet argent-là.
Quand je lui payais à boire, il le trouvait bien assez beau.
Il ne s'agit plus de boire, Léa, ni de faire l'amour. Il s'agit d'enterrer Papa Bon Dieu, et c'est beaucoup plus grave.
Ah oui, on a besoin de s'essuyer le front, hein, tellement on transpire, Seri Bailly.
C'est pas grave.
C'est le prix à Cocody pour une conversation en sol majeur. Alors, vous avez vu cette pièce, Papa Bon Dieu, version Bakaba au Palais de la Culture, en 2002?
Je ne crois pas l'avoir vue, mais je vois ce dont il s'agit. Mmh.
Mmh. Avec ce phénomène de secte, on est aussi un peu dans le drame social qui peut aboutir aux dérives fanatiques, suicide collectif, sacrifice humain, surtout pendant les campagnes électorales, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, on le sait. C'est ce que vit, vous diriez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un drame social avec cette question des sectes?
Disons que, de mon point de vue, plus il y a de religions, de religieux, plus cela signifie qu'une société a besoin de salut. Et donc, il ne faut pas banaliser cela, il ne faut pas le mépriser. comme tous les appels au secours, il faut les entendre. Les religions, il faut maintenant qu'elles sachent se limiter elles-mêmes. Elles ne peuvent pas prédire notre avenir à tout bout de champ. Mais chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, j'encourage. S'il faut faire des dons, je les fais. Il m'est arrivé, sans forcément avoir à être croyant, à être parrain de cérémonies religieuses. Parce que c'est ma façon de les encourager à exercer leur ministère dans la société et jouer leur rôle d'apaisement social. Je sonne un peu comme un prédicateur moi-même là.
Un peu, oui. Un peu lié aussi par le droit de réserve, parce que c'est toujours un terrain glissant, la question de la religion, on le sent bien, quoi.
Oui.
Alors, vous critiquez pas mal, en fait, parce que vous l'aimez tellement, votre Côte d'Ivoire, que vous la chicotez, pour reprendre un terme qu'on aime bien par ici.
Oui, il faut critiquer.
Il faut critiquer. Ouais, mais
on voit la Côte comme la figure de la critique.
Vous avez ce point commun peut-être avec Bakaba, et c'est le professeur-chercheur André Banouman Kamaté qui le dit, qui est à l'origine de ce colloque. Mmh. Bakaba, son théâtre en tout cas, est désireux d'affranchir les peuples africains, les élites, les en haut, comme disait je ne sais plus qui. Comme,
le professeur Nyangoramboa.
Voilà, comme le petit peuple d'en bas. Mmh. Après avoir dit tout ce que vous avez dit de positif et de moins positif sur cette Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'il faut être fier? Et ma question s'inscrit dans une période compliquée pour la Côte d'Ivoire où la question de l'identité s'est beaucoup trop invitée ces dernières décennies dans le débat ivoirien. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être fier, selon vous, mais je parle à Seri Bailly, d'être ivoirien aujourd'hui?
Pourquoi être fier d'être ivoirien? Mais la première réponse, c'est que dans tous les pays, les citoyens doivent être fiers de leur pays. À partir de ce moment-là, les Ivoiriens ont le droit d'être fiers de leur pays. C'est-à-dire fiers de Didier Drogba. Il m'est arrivé de voyager, de dire que je viens de Côte d'Ivoire, on dit « Ah, Didier Drogba !» Donc, je dois être fier de la Côte d'Ivoire qui a produit Didier Drogba, qui a produit Bernard Dadier, qui est un écrivain formidable, connu au niveau universel. Alpha Blondy, qui est connu. Je regardais la télévision hier ou avant-hier, et pendant les courses nautiques, un des concurrents jouait Alpha Blondy, Coco D Rock. Et donc, c'est le résultat, disons, de la société ivoirienne. Elle a produit donc des intellectuels, des écrivains, des musiciens, des hommes politiques, et ce sont tous ces éléments-là que nous rassemblons, et tous ces éléments qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et je pense que tous les pays ont les éléments qu'il faut pour qu'ils soient fiers d'eux aussi. Parce que le risque, aujourd'hui on dénonce beaucoup le nationalisme, mais tout le monde admet qu'on peut être patriote, c'est-à-dire fier de son pays, mais pas nationaliste, dans le sens où, et je crois que c'est Debré qui le dit aussi, où être nationaliste, ce serait penser que son pays est meilleur aux autres, qu'il doit dominer les autres. Non. Donc j'invite tout le monde à être patriote, à aimer son pays, ce qui n'empêche pas d'aimer l'Afrique et d'aimer l'humanité.
Merci pour cette conversation en sol majeur, au maquis de Cocody, Port-Royal, où effectivement ça boit, ça mange à tchéquer, et puis ça fête aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais la journée de la paix, puisqu'on a enregistré cette émission le 15 novembre, et c'est un jour férié, peut-être en hommage à Oufouet Boigny qui disait que la paix était un comportement.
Oui, c'est une phrase qui est bien souvent utilisé, et il faut bien faire partie des éléments dont la Côte d'Ivoire peut être fière.
En sol majeur, @rfi.fr.
Cher Seri Bailly, pas de zouglou en sol majeur. Je ne vais pas ouvrir le débat avec vous, parce que vous avez une réputation sur le zouglou. J'ai lu que pour vous, c'était la musique de la faible estime de soi, mais en fait, c'est un fake, comme on dit. Ce n'est pas vrai, vous ne le pensez pas du tout. Donc, on va faire pouf-pouf pour vous. Vous allez devoir choisir entre Bembaya Jazz, d'un côté, ou Ernesto Djedje, d'ailleurs, qui est peut-être un peu le père du zouglou.
Oui, sous un certain rapport.
Oui, voilà.
Mais alors, je choisis Bembaya pour aller avec l'honneur de Mori Finjan. Bembaya, c'est celui qui a produit l'une des grandes chansons africaines qui est dédiée à Samori Touré, le grand résistant à la conquête coloniale.
Sol majeur à Abidjan pour tout un week-end avec Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On va poursuivre sous les 30 degrés pluvieux de la Côte d'Ivoire demain pour palabrer cette fois avec Sidiki Bakaba dans le cadre de ce colloque international qui lui est consacré à l'université Félix Houphouët-Boigny. À demain.